Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, partir du verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets séculents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va se recueillir quelques instants. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour la parole qui vient d'être lue, qu'elle porte son fruit dans notre cœur, et que la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées. Nous te bénissons de bien vouloir déverser en nous ce dont nous avons besoin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Notre lecture ne s'adresse pas seulement à Israël, mais pour chaque homme et chaque femme. C'est-à-dire pour toutes les nations. Vous avez remarqué, c'est l'état de ton âme. Et j'ai entendu beaucoup sur l'état du corps. Et dans l'avant-dernier témoignage, sur l'état de ton âme. Vous avez remarqué que l'état du corps fait souffrir, mais l'état de l'âme, c'est quelque chose qui fait encore plus souffrir. On peut parler de l'état de son corps sans ressentir une émotion. Mais l'état de l'âme nous amène à des émotions. Il y a de cela de longues années, je me trouvais au Cambodge. Et l'après-midi, nous avions une réunion. Et puis, c'est selon les cultures. Des fois, on a une chaise pour pendant la réunion. Une autre fois, on est assis par terre et on prêche, on écoute. Tout cela dépend dans l'endroit où l'on est. Et puis est arrivé un moment, après la prédication, nous avons imposé les mains. Et donc, comme cette dame cambodgienne était assise, à fur et à mesure que je priais, elle s'est mise à crier, et puis elle s'est allongée. Alors la première réaction, c'est de dire que cette femme, elle crie, cette femme est possédée par un mauvais esprit. Ça, c'est la solution rapide. Mais quand on connaît ce qui s'est passé au Cambodge sous un certain régime et qu'on en connaît le fruit, en réalité, cette femme, il y avait une souffrance intérieurement, l'état de son âme qui était dans une grande souffrance. Ce qui veut dire que l'on peut avoir une grande souffrance, l'état de ton âme. Lorsque le prophète Ésaïe va parler au peuple, il va voir en réalité la situation intérieure par les actes qui se manifestent à l'extérieur. Et il dit « la tête est malade ». Et le cœur est souffrant. Et de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile, et votre pays est dévasté. La Bible nous révèle que personne ne s'occupait de ces situations spirituelles. Job pourra dire aux amis qui sont là pour l'accuser de toutes sortes de choses, vous êtes des docteurs de néant. Vous êtes des consolateurs de néant. Et qui peut, en effet, guérir l'intérieur? C'est pourquoi le prophète va enseigner le peuple devant une réalité. Vous tous qui avez soif. Et intérieurement, c'est la même situation dans notre 21e siècle, avoir soif. C'est le problème. Quand vous lisez les derniers versets du livre de l'Apocalypse, celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça se termine sur une soif. Et là, Apocalypse 22, 17, c'est celui qui a soif et celui qui veut. Donc il faut qu'il y ait une disposition de cœur, une volonté personnelle, prennent de l'eau de la vie gratuitement. C'est là quelque chose de merveilleux, que nous sommes invités, et donc vous donc qui avez soif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a une soif qu'on ne peut pas définir. Une soif qui est là. On peut boire l'eau minérale, mais on reste toujours sur cette soif. Et cette invitation pour tous les peuples, venez aux eaux. Et là, quelque chose d'extraordinaire, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. C'est formidable. C'est une invitation. Je me souviens, lorsque nous étions rue Colmar, il y a peut-être 30-35 ans de cela, c'était SOS Jeunes, et là, on distribuait dans un local des milliers de petits déjeuners. Et le dimanche midi, le culte se terminait et on partait tel que nous étions habillés en costume et autres. Et on allait servir dans ce local une trentaine de déjeuners. Et on se disait quand même, pour 5 francs à cette époque, c'est qu'on voulait qu'il y ait une participation. Et on savait qu'il y avait des dealers, on savait qu'il y avait cela. Je me souviens d'un dimanche, il y a eu dans la nuit une bagarre à armes blanches, et il y avait un garçon qui avait été blessé à l'arme blanche, partout sur le corps, c'était impressionnant. Il voulait manger, mais sans rien payer. Alors on donnait bien sûr à manger. Tandis que là, l'invitation qui est faite, même celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a absolument rien du tout, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Moi, je trouve ça formidable, cette invitation à venir vers le Seigneur. Nous qui avons soif intérieurement, l'état de ton âme, soif de guérison, soif de paix, soif de bonheur, soif de grâce, soif de guérison, soif intérieurement, venez sans argent. Venez aux eaux. Venez boire. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et puis, il y a une interrogation qui est faite de la part du prophète. Pourquoi pesez-vous de l'argent? C'est comme si le prophète nous disait: mais vous qui avez de l'argent en banque, pourquoi vous pesez, on pesait l'argent? En réalité, il va dire pour ce qui ne nourrit pas. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais une addiction, c'était le jeu. C'était le poker. Et j'ai passé des heures et des heures et des nuits. Et ça m'a marqué, ça m'a choqué. Certes, j'ai gagné de l'argent, mais je me souviens, dans les premières parties, je suis arrivé, je venais de toucher mon salaire, et en quelques minutes, le salaire a disparu. Vous vous rendez compte? Ça m'a mis un coup terrible. Des décennies après, je m'en souviens encore. Ça m'avait fait un choc terrible. C'est comme si vous avez travaillé un mois et vous avez une addiction, quelle qu'elle soit, et vous croyez que vous allez maîtriser l'addiction, et voici que vous avez pesé de l'argent. Vous avez pesé, et vous dites, je vais maîtriser, je vais me satisfaire. Et le prophète dit, pour ceux qui ne nourrit pas. Il amène simplement à l'interrogation. Et ensuite, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Le prophète parle aimer les personnes devant leurs responsabilités avec pourquoi ? Bien sûr qu'on ne peut avoir de l'argent qui, si on travaille. Ça dépend aussi le pays. On peut être au chômage et aussi avoir de l'argent. Quand l'autre soir, à nouveau départ, une jeune fille dit « Mais j'ai pas de carte d'identité, j'ai pas de RSA, il me faut tant d'argent. » Alors le frère dit « Mais voilà, viens la semaine prochaine et je te donnerai l'argent. » Et puis, une fois que la jeune fille est partie, je lui ai dit « Tu sais, tu crois que c'est pas dangereux de dire à la jeune fille « Je te donnerai l'argent pour que tu puisses faire une carte d'identité et que tu puisses avoir le RSA. T'as pas peur de lui donner l'argent, mais ça risque de ne pas lui rendre service. » Alors il m'a dit « Je me suis fait prendre une fois. Et là, je lui donnerai l'argent. Mais il faudra qu'elle vienne avec moi à la préfecture. Et quand elle remplira les papiers, je paierai. » Vous comprenez ? Pourquoi travaillez-vous ? Parce que c'est un besoin. Pour ce qui ne se rassasie pas. Ce qui veut dire le travail. Amen. Mais la Bible répond, ça ne nourrit pas. Ça ne rassasie pas. Ce qui veut dire qu'on dépense son argent pour des choses qui vont encore occasionner une souffrance supplémentaire. Le prophète ne fait pas une morale. Mais bien au contraire, il va dire, mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes séculents. La parole de Dieu nous parle de mes séculents. Elle nous parle de mets qui vont satisfaire l'intérieur de notre âme. Et ça, l'âme, c'est quelque chose d'inviolable. La Bible nous révèle que nous sommes corps, âme, esprit. Vous avez remarqué sur des animaux de compagnie, bien des personnes disent « Ah, mon animal de compagnie, ne lui manque que la parole. Mais il est d'une intelligence formidable. » Oui, mais il lui manque la parole. L'animal n'est ni âme, ni esprit. Eh oui. Tandis que l'être humain est âme et esprit. C'est-à-dire que nous avons notre corps. Et si nous n'avions seulement que notre corps, le pain quotidien nous suffirait. Mais nous sommes âme et esprit. Notre corps n'est que l'enveloppe. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire, c'est que notre esprit est en relation avec Dieu. Et notre esprit est quelque chose d'inviolable. Je l'ai raconté, j'arrivais quand nous arrivions comme serviteur de Dieu à Saint-Nazaire, et il y avait une personne qui était déjà d'un certain âge, et elle dit, ma petite fille, elle ne passe simplement que quand j'ai touché ma pension, ma retraite. Alors elle était découragée, puis c'était l'époque où il y avait la canicule, et elle dit, je m'en vais en voyage. Alors arrivant, lui dire « Mais comment vous partez par avion ?» Et j'ai cru qu'elle partait par avion. Puis quand elle est arrivée, c'était par bus, qui était partie à l'étranger, elle a fait un AVC. Et puis quand elle est revenue, je suis allé la voir à l'hôpital. Et quand on a parlé ensemble, dans sa tête, c'était vraiment le brouhaha. C'était vraiment la tempête. C'était vraiment incohérent tout ce qu'elle pouvait dire. Elle avait dit quelque chose de cohérent. Vous savez, je suis revenu, j'étais content de voir ma petite maison quand l'ambulance est passée, parce qu'il y avait un feu. Donc elle avait vu sa maison avant de rentrer à l'hôpital. Ça avait été incohérent. Et tout à coup, je dis, je vais prier pour vous. Alors j'ai prié pour elle, j'ai imposé les mains, et puis après elle est partie dans la prière. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va dire comme chose incohérente? Mais tout était cohérent. Notre esprit est inviolable. Ça, c'est formidable. Tout ce qui est spirituel, notre âme, notre esprit est inviolable. Ce qui veut dire que l'on peut être perturbé, mais dans la communion avec Dieu, on ne peut pas y être. L'état de ton âme. Votre âme se délectera de mets séculents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Quelqu'un me parlait il y a quelques heures sur l'enfant qui est roi. Et cette personne me disait, il y a combien d'années que l'enfant est roi? Et je lui ai dit, ça remonte à 75-76. Je me souviens, les enfants qui étaient ados sont devenus des rois. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont enseigné qu'il fallait absolument laisser faire l'enfant tout ce qu'il voulait. Il était roi. Et on avait ce midi notre petite fille qui était là, qui a 2 ans, et tout à coup elle a pris le téléphone à sa maman. 2 ans. Mais le téléphone, c'est pas fait pour les adultes parfois, hein. C'est fait pour les enfants. Elle appuyait, 2 ans, toc, 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 et d'un seul coup, de la musique. Et sa maman dit, mais attends, je ne sais même pas comment ça se ferme. Et ça, les enfants, c'est fait pour les enfants, hein. Et j'ai posé la question après à cette personne qui me posait la question sur l'enfant roi. Mais je dis, tous ces enfants qui sont rois aujourd'hui, comment ils vont faire quand ils vont grandir, se marier, avoir des enfants? Les enfants vont devenir rois aussi. C'est là quelque chose de terrible. Et donc, prêtez l'oreille, venez à moi. Et ça dépend à qui nous allons venir. Et l'invitation du prophète, c'est venez à l'Éternel. Venez à Dieu. C'est lui seul qui est capable de prendre soin de votre âme. L'apôtre Pierre dit, vous êtes revenu vers le berger, vers le grand berger, vers le gardien de votre âme, vers le surveillant de votre âme. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce verset biblique, parce qu'ils ont besoin d'une protection dans leur voiture. Ils vont mettre un ange, ils vont mettre une protection. Il n'y a aucune protection. Mais celui qui est le surveillant de notre âme, celui qui est le gardien de notre âme, c'est le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et je crois que, comme je l'ai entendu cet après-midi, il y a des guérisons spirituelles qui se font. Quand notre sœur parlait dans la culture africaine, c'est vrai que le papa, titre honorifique le vieux, peut-être 80 ans, décrocher le téléphone et dire à sa fille « pardon », c'est un espoir remarquable. C'est un espoir remarquable que quelqu'un comme cela puisse demander pardon. Ce qui veut dire que ça fait du bien à l'âme. Ça retire la souffrance. Ça fait quelque chose d'incroyable. Un jour, j'étais à un mariage. Nous étions à un mariage. Et nous connaissions la situation familiale, ou plutôt c'était un remariage. Il y a des moyens modernes, aujourd'hui c'est extraordinaire, qui savent faire retirer une souffrance. C'est le visuel. Vous avez vu, le visuel, ça fait partie de notre vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait le visuel, l'arbre. Et donc, on voit, voilà, une vidéo, et on voit les parents de la jeune femme, on voit ceci, cela, cela. Et d'un seul coup, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, les enfants qui sont des adultes, vingtaine d'années, vont se jeter dans les bras de la maman, et la maman se jette aussi dans les bras de ses enfants, et ça pleure, et ça pleure. Et je dis en moi-même, selon mon expression, des tonnes de souffrances sont en train de partir. On ne peut pas mesurer la souffrance. Mais des tonnes et des tonnes, on a senti qu'il y avait là des libérations, des réconciliations qui se faisaient. Et Jésus va parler que la souffrance, elle peut nous courber. Et lorsque Jésus va guérir cette femme qui est courbée, cette femme n'est pas venue courbée du jour au lendemain. Lorsque nous sommes arrivés dans cette rue, nous avons vu un homme jeune. Et nous l'avons vu, c'était un homme distingué, un homme qui aussi avait une situation. Et d'un seul coup, dans sa vie, il y a eu une rupture, un brisement. Et cet homme a commencé à se courber. Et c'est terrible. Et puis, je me suis dit, il y a quelque temps, il doit être décédé, cet homme, je ne le vois plus, mais des décennies. Et puis là, maintenant, quand je le vois, il est presque arrivé à toucher le macadam avec son front. Et puis un jour, j'ai su comment s'est arrivé ce déclin. C'est parce qu'il a perdu sa femme qu'il aimait. Il est tombé veuf. Il y a des choses qui vous courbent dans la vie. Il y a des choses qui vous courbent. Et cet homme, progressivement, est tombé parce que ça l'a courbé. Et Jésus, quand dans la synagogue, il dit, mais redressez-vous. Redresse-toi plutôt. Et cette femme va se redresser, c'est formidable. Et Jésus, quand il fait ce miracle, il va montrer le monde dans lequel on vit et dans lequel on va vivre. C'est à cause de l'anxiété, à cause des bruits, de l'eau, des événements. Il dit, ça va vous courber. Les gens vont être dans l'anxiété, mais il dit, mais Redressez-vous. Votre espérance, votre délivrance, elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Donc Jésus veut nous mettre en garde et nous dit « Attention, les événements peuvent vous courber, mais redressez-vous et regardez vers le ciel. » Vous vous souvenez d'Israël, quand on voit la délicatesse de Dieu, ils sont libérés de l'esclavage, libérés de l'Égypte. Et Dieu dit, mais je ne vais pas les faire passer par ici. Parce que peut-être ils vont rencontrer la guerre. Puis ils vont vouloir retourner en Égypte. Je vais les faire passer par là. Et quand ils passent par là, il y a la mer Rouge qui est devant. À droite, c'est les montagnes. À gauche, c'est les montagnes. Et derrière, c'est l'armée de l'Égypte qui arrive. Quand vous êtes encerclé, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous ne pouvez pas regarder devant. Vous ne pouvez pas regarder à droite. Vous ne pouvez pas regarder à gauche. Vous ne pouvez pas regarder derrière. Vous regardez où ? Que vers le ciel. Que vers le ciel de gloire. Et le secours, il nous vient d'en haut. Et c'est formidable quand on arrive à régler nos situations, nos souffrances. Parce que quand Jésus vient sur la terre des hommes, il parle des cœurs brisés. Il ne traite pas les choses individuellement. Comment tu as fait pour avoir ton cœur brisé ? Mais c'est dans le programme de Dieu de dire « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. » Et il y a des gens qui ont cessé de vivre. Tout en vivant, ils ont cessé de vivre. Parce que la souffrance est quelque chose de terrible. L'angoisse, l'anxiété, toutes ces choses nous empêchent de vivre. Et Jésus, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour rendre libres les captifs, ces hommes et ces femmes qui sont avec leurs chaînes invisibles. Je suis venu pour les délivrer, pour les aveugles recouvre la vue. C'est terrible. Quand on est dans cette situation, écoutez-moi, mangez ce qui est bon, votre âme se délectera, se délecter. Oh, c'est formidable. Il ne parle pas de l'estomac, il ne parle pas de la chair, il parle de l'âme. Votre âme, je vais la consoler. Je vais la réjouir. Votre âme, elle va vous permettre de vivre. Regardez, et je vais conclure, quand nous prenons le pain et le vin, nous disons c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures de Jésus. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. La blessure de l'âme. Je rends grâce à Dieu pour les blessures de mon âme qu'il a guéries. Nous rendons grâce à Dieu pour les blessures de notre âme qu'il a guéries, le Seigneur. Nous le bénissons de tout notre cœur, parce qu'à la croix du calvaire, il a tout porté, il a tout accompli. Béni soit le nom de Jésus. De ce qu'il guérit notre âme, de ce qu'il console notre âme, de ce qu'il restaure notre âme, de ce qu'il nous fait revivre les uns les autres. Votre âme, verset troisième, vivra. Votre âme vivra. Votre âme va revivre. Elle vivra. C'est formidable. Dernier témoignage. Avec ma fille, notre fille à cette époque, elle avait peut-être 7-8 ans, je voyageais beaucoup. Et puis, mon épouse me dit, il faut que tu ailles voir l'orthophoniste parce que notre fille, elle a un grand problème avec toi. Alors j'ai pris ma fille, je lui ai dit, t'as un problème avec ton papa ? Elle a dit, non, j'ai pas de problème. Et donc nous sommes allés voir l'orthophoniste. Et donc à la place des soins, la séance, c'est moi qui ai pris l'heure avec elle et ma fille était là. Et je lui dis, vous savez, moi nous avons 5 enfants. Hein. C'est pas dans notre maison, c'est clair, net. J'ai une femme qui est très ordrée, etc. Et puis je lui dis, vous savez, madame, c'est moi qui vais voir les professeurs. C'est moi qui vais les voir, collège ou autre. Et j'ai remarqué que c'est toujours nous, les parents, qui avons un problème avec nos enfants. Mais j'ai dit, vous savez, avec grand respect, moi j'ai vu des professeurs qui se droguaient. J'ai vu des professeurs qui buvaient. J'ai vu des professeurs qui avaient des addictions. Et d'un seul coup, cette femme, elle s'effondre. Elle s'effondre. Elle dit, le problème est chez moi. Je suis en divorce. C'est facile de rejeter sur l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, quand je suis rentré, j'ai dit à ma fille, à notre fille, c'est fini, tu ne vas plus aller là. On va te retrouver quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, après, elle nous a envoyé un courrier, regrettant. Mais l'autre orthophoniste dit, mais votre fille a un problème. Elle a un problème. Il faut consulter d'audition. Un problème d'oreille. Alors ça, c'était facile. Hein. Je me vois encore juste avant de partir en voyage. Je mets mes deux doigts dans ses oreilles et dans le nom de Jésus-Christ, que cette infirmité quitte ses oreilles, elle est guérie instantanément. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Tu entendais mal. Ben, elle a dit, je pensais que c'était tout le monde pour tout le monde pareil. Et à partir de là, il n'y avait plus de problème. Alors, on pense que tout le monde, on suit tous. Voilà. On vit sous le terrorisme. On vit sous la maladie. On vit sous la situation de notre nation. On vit sur la... toutes les difficultés, alors on suit le mouvement, on suit la foule avec nos souffrances. Mais le Seigneur est celui qui veut vous guérir. Il est celui qui veut vous guérir de votre surdité spirituelle. Il est celui qui veut vous guérir de votre langue qui est muette, dans le sens que il veut que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Votre âme vivra. Votre âme vivra. Vraiment, rien n'est impossible à notre Dieu. Je ne fais pas de comparaison entre votre situation et celle-ci. Mais vous vous souvenez de cet homme qui était dans un cimetière, près de la ville de Gadara, dans une situation comme cela. Jésus, là où personne n'osait passer, Jésus est passé. Il a délivré cet homme. Et pourquoi l'a-t-il délivré ? Parce qu'il avait besoin d'être délivré. Mais c'est parce que c'est le Créateur, c'est Dieu. Et l'image de Dieu était dans cet homme. Nous sommes créatures de Dieu. Et il y a l'image de Dieu qui est en nous. Il y a la grâce de Dieu qui est en nous. Et cet après-midi, croyez que le Seigneur est celui qui veut vous libérer. Un jour, moi qui étais anticlérical, quand le Christ m'a rencontré, ça s'est passé dans une histoire d'amour entre lui et moi. J'ai réalisé sa présence. Je me vois encore dans cette ville d'Argenteuil. J'avais une chambre dans un hôtel. Je vois encore réaliser une présence, mais invisible. Je vois que cette présence me fait réaliser que je suis sale intérieurement. Je suis tout seul. Je viens de lire une lettre où on me parle de Dieu. Je connais l'auteur de cette lettre. Et là, je sens quelque chose qui envahit mon cœur. Cet amour que j'ai jamais goûté. Un amour extraordinaire que je ne peux pas définir, mais qu'une fois que j'ai vraiment fait cette expérience de repentance, de conversion, je sais que c'est l'amour de Dieu. Et là, je plie le genou, je me mets à genoux, je confesse ma souffrance, je confesse mes péchés les uns après les autres, et l'amour de Dieu est en train de m'envahir, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Je crois que j'ai dû pleurer pendant 2 heures. Il me semblait que mes dernières larmes remontaient 8 ans auparavant, quand j'avais 10 ans et demi, et que j'étais seul, j'étais puni en pension. Et là, me couchant le soir dans mon lit, pliant, me mettant sous mes draps, pleurant. J'étais seul. Tout le monde était sorti. On sortait tous les 3 semaines. Et là, la punition, c'était 3 semaines encore sans sortir. Ça faisait 6 semaines. 10 ans et demi. Et j'ai dit, je suis un rejeton. Je suis un bâtard. Je ne peux pas dire bonsoir à papa. Je ne peux pas dire bonsoir à maman. Mes parents sont divorcés. Eh bien, j'ai dit, à partir de maintenant, la haine va s'installer dans mon cœur et je vais me venger. Et pendant plus de 8 ans, je me suis vengé. La haine a régné en maîtresse dans mon cœur. Mais ce soir-là, à genoux, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et après, je serai sorti. Quelqu'un serait venu pour me frapper. Je l'aurais pris par le bras. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. J'aimais tout le monde. Et j'aime encore tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne une grâce. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur, que des âmes naissent de nouveau. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Merci pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, décharge ces âmes de la souffrance. Décharge, parce que tu as pris, tu t'es chargé de nos maladies, de nos infirmités. Dans le nom de Jésus-Christ, que le souffle de Dieu passe sur nos cœurs. À ton nom soit la gloire, la puissance, la louange et l'honneur. Amen. Approchez-vous, on va prier.